Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de la radio Inzamba Agathe Kakawe. Bienvenue dans ce journal du 19 janvier 2022. Tout d'abord, les principaux titres. Les militaires burundais continuent d'entrer au Congo pour traquer les rebelles burundais qui seraient au Congo. L'insécurité qui règne à l'est du Congo affecte les réfugiés burundais du camp de Lusenda qui ne vaquent plus correctement aux travaux champêtres. L'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains d'Angers s'inquiète de la sécurité des détenus. Ils sont malmenés et battus dans plusieurs maisons de détention du Burundi. À Muyinga, la pénurie du sucre occasionne la flambée des prix de ce produit de la Sosoumo. Le kilogramme se vend actuellement à 5000 francs burundais. Encore une fois, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Commençons ce journal par le dossier sécurité. Les militaires burundais qui ont fait l'incursion en République démocratique du Congo ont reçu chacun avant le départ une somme de plus de 80 000 francs burundais et une tenue civile composée d'un pantalon en t-shirt et une veste qui résiste au froid. Ces militaires partent en renfort des autres militaires burundais qui sont présents sur le sol congolais depuis plus d'un mois. Des sources militaires indiquent qu'ils sont là pour traquer les rebelles burundais qui se trouveraient à l'est de la RDC. Plus de détails avec Benny Axelakana.
Les informations que nous détenons des sources de la radio Inzamba dans l'armée burundaise, les militaires qui ont fait incursion à l'est de la RD Congo dimanche dernier avaient fait d'abord un déplacement mobile à pied de Lukoko, dans la commune Gihanga, de la province Mubanza, jusqu'à Mabayi, dans la Kibira, en province Chibitoke. Ce déplacement à pied d'un si long trajet a été expliqué par le commandement comme une remise en condition pour ces militaires, indiquent les mêmes sources. Avant le départ, il leur a été distribué des jeans, t-shirts et vestes qui protègent contre le froid et une somme de 85 000 francs burundais chacun. L'argent leur servira d'acheter les dentifrices et une occasion d'étancher la soif avec de la bière. Les mêmes sources font savoir qu'ils ont traversé la rivière Lusizi en passant par la commune Gihanga de la province Mubanza, dans une localité communément appelée Kuliferme. Tous les militaires étaient en tenue civile avec les armes, renchérissent nos sources. Les militaires qui ont refusé de prendre leurs armes étant en tenue civile sont détenus au camp Gatumba et au camp Gakumbu. Les mêmes sources craignent pour leur sécurité. Ces militaires sont partis en renfort des autres qui sont déjà sur le sol congolais depuis plus d'un mois. Ils auraient comme mission de traquer les rebelles burundais se trouvant à l'est de la République démocratique du Congo, le mouvement des Tsavara et les FNL d'Aloïse Nzabamema. La rédaction de la radio Inzamba a tenté de joindre par téléphone le colonel Floribert Villeleke, porte parole de l'armée pour éclairer l'opinion sur ces révélations des militaires, mais sans succès.
Restons au Congo pour vous dire que les réfugiés burundais du camp de Lusenda en RDC ont repris ce mardi leurs activités dans les champs autour du camp. Mais ils disent qu'ils ont toujours peur des miliciens Maïmaï qui ne cessent de les menacer et les empêcher de cultiver leurs champs paisiblement. Le point avec Vanessa Moïteka.
Après toute une journée d'interruption, ces réfugiés ont effectivement décidé de reprendre le travail dans les champs même s'ils disent que les Maïmaï constituent toujours une menace pour leur sécurité. Ils ne peuvent vivre sans aller aux champs comme ils le disent.
Nous avons repris les travaux dans les champs, mais sur les collines, il y a toujours des malfaiteurs, des Maïmaï qui continuent à circuler un peu partout. Nous avons encore peur, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain ou après-demain. Dieu seul le sait.
Les activités avaient été interrompues ce lundi matin, quand ils ont vu des tracts de miliciens Maïmaï un peu partout. Sur ces tracts était écrit qu'aucun réfugié ne pouvait se rendre dans ces champs sans payer une certaine somme d'argent. Ce qui avait provoqué une peur panique chez ces réfugiés burundais. Ces réfugiés sont souvent la cible des miliciens Maïmaï. Au mois de novembre dernier, ils avaient fait irruption dans son camp de Lusenda. Ils avaient occasionné des dégâts humains et volé le bétail de ces réfugiés. Les organisations des droits de l'homme et surtout la coalition CBDH-Vicar qui suit de près la situation de ces réfugiés dans les camps résiste à demander qu'on trouve un autre camp plus sécurisé pour ces réfugiés burundais de Lucinda.
Merci à Vanessa Muyiteka. Les réfugiés burundais en République démocratique du Congo dans les camps de Murungu et Usenda sont sous menace de l'épidémie de paludisme depuis mi-décembre dernier. Cela figure dans une enquête menée par le Forum pour le renforcement de la société civile du Burundi. Dans le site de Murungwe, la moyenne journalière des cas de malaria est de 80 cas, tandis qu'au camp de Lusenda, la moyenne journalière est de 145 cas. Écoutez Ernest Nkurunziza, il est secrétaire exécutif du FORS.
Cette épidémie se déclare dans un contexte de manque de nourriture et donc de famine et de faim, et dans un contexte d'insécurité qui règne dans les camps depuis pratiquement novembre de l'année passée, où des groupes rebelles attaquent, tuent, volent, violent les femmes qui se rendent au champ. C'est aussi au moment où le personnel médical se plaint de ne pas toucher leur salaire à temps. Nous demandons aux autorités administratives de ces camps de réfugiés, de respecter la dignité des réfugiés, de respecter les droits et libertés des réfugiés, et de considérer ces derniers comme des groupes de personnes vulnérables qui méritent un suivi et une assistance spéciale. Au HCR, nous lui demandons d'accomplir ses devoirs de protection des réfugiés, notamment en assurant la sécurité alimentaire et physique. Le paludisme est plus meurtrière là où les gens ont faim, car le médicament est inefficace dans un corps affamé. Au camp de Lusenda, où s'entassent près de 25 000 réfugiés, la moyenne journalière des cas positifs est d'au moins 145 selon des sources médicales sur place. Au camp de Murungwe, qui abrite au moins 10 000 réfugiés, la moyenne journalière des victimes de paludisme en est à au moins 80 cas. L'épidémie touche particulièrement les enfants. Au moins 5 morts sont déjà enregistrés au camp de Lusenda depuis pratiquement le 9 janvier dernier.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour 3 raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Éducation à présent, le Conseil national de dialogue social a rempli son cahier de charges en amenant la Confédération des syndicats des enseignants et le ministère à un consensus sur le différend qui les oppose. C'est le constat fait par Eulalie Widzi, ancien représentant du syndicat des enseignants, et trouve que le CNDS, qui est présidé par un ancien chef d'État, porte espoir et demande que d'autres revendications des enseignants soient analysées dans l'immédiat. Eulalie Widzi.
J'ai apprécié l'autorité, c'est-à-dire le Comité national du dialogue social, qui a aidé le gouvernement et les syndicats à s'asseoir ensemble d'abord, mais aussi à arriver à une décision sereine, une décision sage, c'est-à-dire celle du gouvernement, de suspendre, de sursoir à la mesure d'évaluation des enseignants en vue d'un renforcement des capacités, mais avec d'autres réformes qui devaient s'en suivre et que les syndicats des enseignants avaient contestées. J'apprécie également l'attitude des syndicats, membres de la Confédération des syndicats des enseignants, qui ont compris que au cas où le gouvernement sursoit à sa mesure, il est sage de sursoir aussi au préavis de grève, parce que la grève était légale, et ça va de soi que quand une voie de solution est déclenchée, la grève soit suspendue. Ça, c'est sage, et c'est la voie normale du dialogue. J'ai beaucoup apprécié, j'insiste beaucoup sur le comportement du Comité national du dialogue social. Ce Comité national du dialogue social a été instauré en période où les conflits étaient devenus un mode de vie des travailleurs, faute de dialogue, faute de terrain d'entente entre le gouvernement et les syndicats. Oui, je suis convaincue que le Comité national de dialogue social est capable. Il est capable parce qu'il se fonde sur des textes clairs. Il y a la Charte nationale de dialogue social qui a été mise en place de manière consensuelle après une longue période de débats, de discussions et de consensus par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs ensemble, main à main. Alors, si le Comité national de dialogue social se fonde sur les textes, il n'y a aucun obstacle, si ce n'est que la volonté. Il faudra alors qu'il s'engage dans la résolution des problèmes.
Rappelons que le Comité national de dialogue social a annoncé ce mercredi que le ministère de l'Éducation a suspendu les épreuves de tests de niveau aux enseignants qui étaient prévues et par conséquent, les enseignants ont retiré à leur tour le préavis de grève qui avait été annoncé. Toujours dans le domaine de l'éducation, une fille de l'école fondamentale de Rukinga 3 a interrompu ses études après avoir été engrossée par son directeur Jackson Nyomungele. Ce dernier l'a trompée qu'ils vont se marier, mais l'a jetée par la suite dans la rue. Les membres de la famille de cette fille demandent que ce directeur soit traduit en justice et démis de ses fonctions. Les détails avec Valérie Mucho.
Selon les informations recueillies auprès de sa famille, la fille qui a été engrossée par son directeur fréquentait la 9e année à l'école fondamentale Rukinga 3. L'accusé, Jackson Nyomungere, directeur de cette école et membre de la Ligue des jeunes Imbonerakure, est allé cacher la jeune fille dans sa famille située sur la colline Kizuka en commune et province Rumonge. Il avait trompé la fille en lui promettant de l'épouser. Les membres de la famille de la victime ont essayé de plaider en sa faveur, mais ils ont subi des intimidations de la part de certains ténors du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, avec au sommet un certain Innocent Sabiyumva, ancien secrétaire du parti en commune Rumonge. Jackson Nyomungere a par la suite emmené la fille à Bujumbura pour un avortement selon nos sources sur place à Rumonge, avant de la faire revenir à Kizuka pour la reprise de ses études à l'école fondamentale de Mbidzi. Et quand la nouvelle s'est répandue, le directeur de cette école a pris la décision de l'exclure de l'établissement. Selon un de ses proches, la famille de la jeune fille demande aux autorités de se saisir de ce cas.
Nous faisons un constant très amer. La fille, elle-là, ne peut pas continuer ses études. C'est regrettable et c'est un problème très sérieux qui nous tient à cœur. Nous remarquons que ce sont ceux qui sont censés protéger les gens qui les détruisent. Il n'est pas du tout normal qu'un directeur d'une école engrosse son élève et procède par la suite de son avortement. Ça fait vraiment peur. Nous, au niveau de la famille, ce que nous demandons, il faut que cet homme soit arrêté et traduit en justice en fait qu'il soit puni conformément à la loi. Ça ne devrait pas s'arrêter là. Il faut aussi qu'il soit démis de ses fonctions. C'est ce que nous demandons au niveau de la famille pour que nous puissions nous sentir tranquilles.
Dans les réunions que le gouverneur de la province Rumonge, Consolateur Nitunga, organise, il ne cesse de dénoncer les cas de détournement de filles mineures par des enseignants et des responsables d'école, une situation qui figure parmi les causes des faibles taux de réussite aux examens à Rumonge. Radio Nzamba, nous avons cherché par téléphone le gouverneur de la province Rumonge, Consolateur Nitunga, tout comme le directeur provincial de l'enseignement Isaac Burambi, pour plus de précisions sur cette affaire, mais sans succès.
Merci à Valérie Mucho. Un détenu a été battu et malmené par un capita chargé de la sécurité de ses co-détenus dans la prison centrale de Ngozi. C'est ce que dénonce Germain Rukuki, le président de l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH. Selon lui, la sécurité des détenus devrait être assurée par les policiers. Le règlement d'ordre intérieur devrait être affiché sur les murs des prisons pour éviter la violation de la loi. On l'écoute.
En date du 16 janvier 2022, l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, SDDH en sigle, a appris avec regret qu'aux environs de 17h à la prison d'Ongozi, un détenu du nom de Douayo Ezekiel a été déshabillé, ligoté et atrocement battu par un capitaine en charge de la sécurité du nom de Nyonguru Victor. La victime est actuellement dans un état critique. De telles pratiques d'actes de torture, de mauvais traitements et infligés aux détenus, soit par les policiers, soit par des prisonniers capitaines, sont courantes et dans les prisons et cachots. Rappelons qu'au mois de décembre dernier, au cachot de la police judiciaire d'Ngozi, un détenu y a laissé la vie suite au coup lui infligé par ses co-détenus. Quand j'étais encore en détention, je ne cessais de prodiguer des conseils aux autorités pénitentiaires du moment pour cesser cette pratique de dégradation des droits humains, mais en vain. Nous voulons rappeler aux autorités pénitentiaires que cette structure de sécurité faite par les détenus n'a aucune base légale. Que cette bande de tortionnaires soit démantelée sans délai. Les articles 52 et 17 jusqu'à 19, respectivement du règlement d'ordre intérieur et du régime pénitentiaire, précisent clairement que ce rôle de sécurité est confié aux policiers. Que la victime soit soignée et rétablie dans ses droits et que le bourreau soit sanctionné conformément à la loi. Nous voulons également demander à ce que le rôle de gestion des dortoirs, des chambres et cellules soit confié aux services sociaux des prisons et pas aux détenus capitaux qui sont là pour rançonner les codétenus et partager le sou avec les directeurs des prisons.
La pénurie du sucre qui se remarque dans toutes les communes de la province Muyinga depuis la fin du mois d'octobre 2021 inquiète à plus d'un titre plusieurs familles selon des consommateurs interrogés. Un kilogramme de sucre coûte 5000 francs burundais et dont la clandestinité totale affirme les mêmes sources. Les précisions avec Jean-Marie Ndabashinze.
Cette pénurie du sucre a commencé à se manifester vers la fin du mois d'octobre 2021. À cette période, les commerçants vendaient le kilogramme à 3000 francs au grand jour, alors que le prix officiel légalement pratiqué était de 2500 francs bou, rappelle notre source. La situation s'est compliquée de plus belle au mois de novembre 2021. Le sucre est devenu très rare et cher. Le coût d'un kilogramme revenait à 4000 francs bou pour atteindre 4500 en décembre dernier, déclare-t-on. Aujourd'hui, cette pénurie de sucre va de mal en pire. La dare est introuvable et le kilogramme revient à 5000 francs bou, vendu en clandestinité totale. Cette situation inquiète les familles qui ont de petits enfants auxquels elles donnent de la bouillie ou des enfants qui vont à l'école avant de prendre le petit déjeuner. Les consommateurs demandent à l'administration et à la police de traquer ces commerçants véreux pour le bien des consommateurs. Suite à ces inquiétudes des consommateurs de sucre, la rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu la version du gouverneur de la province de Muyinga. Pour rappel, au début de cette semaine, la société sucrière de Mosso a tranquillisé les consommateurs de son produit que le sucre sera disponible dans tout le pays à partir de la semaine prochaine. Le responsable chargé de la commercialisation du sucre a expliqué que c'est le moyen de transport qui les faisait défaut jusqu'ici.
Clôturons ce journal par les nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations. Sept pays sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Il s'agit du Cameroun, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée, du Maroc, du Gabon et du Nigeria. Ce mercredi, deux matchs sont au programme et commenceront à 21h. La Guinée-Bissau jouera contre le Nigeria et l'Égypte jouera contre le Soudan. En cas de victoire, l'Égypte sera également qualifiée pour les huitièmes de finale. Ce jeudi, il y aura quatre matchs pour clôturer la phase de groupe. À 18h, la Sierra Leone jouera contre la Guinée équatoriale et le match le plus attendu de cette journée opposera l'Algérie à la Côte d'Ivoire. Si l'Algérie perd ce match, ce champion en titre sera éliminé. À 21h, le Mali croisera le fer contre la Mauritanie et la Tunisie affrontera la Gambie. Après ces rencontres, tous les qualifiés seront connus et les matchs des huitièmes de finale débuteront dimanche le 23 janvier par le match Gabon contre Burkina Faso. C'est par ces nouvelles sportives que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez avec Josine Kadze. Au revoir et à la prochaine.